Bonjour à toutes et tous, vous écoutez InfoClub Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est réalisée par Radio Campus Amiens, elle est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur radiocampusamiens.fr. Pour ce nouvel épisode, je suis accompagné d'Aline. Salut Aline.
Salut.
Ça va ?
Ça va bien et toi ?
Oui, ça va bien. Moi je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Colline reçoit Nicolas Itori, l'un des auteurs présents au prochain salon du livre de Selwell.
Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Itori. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs et auditrices ?
Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas Itori et je suis auteur de bandes dessinées et illustrateur.
Vous venez de le dire, vous êtes illustrateur. Quand est-ce que vous vous êtes intéressé à ce domaine ?
Depuis tout petit, je crois que mes parents ont encore des bouquins où je faisais déjà des BD alors que je n'en avais jamais lu. Je découpais déjà par cases mes dessins. Donc je pense que ouais, je suis tombé dedans tout petit. Et honnêtement, je m'y suis mis très sérieusement pendant les révisions du bac parce que je m'ennuyais. Et voilà, j'en ai fait mon métier.
Alors on reviendra un petit peu sur votre parcours parce que vous avez fait plein de choses, pas forcément à Amiens. Vous avez aussi réalisé à 3 reprises l'affiche pour le salon des associations Agora. Là, ils viennent de lancer leur appel pour l'édition 2025. Est-ce que vous allez participer ?
Bon, on va essayer. Ça serait chouette. Moi, j'adore voir mes affiches dans Amiens. Je suis toujours très fier de voir ça. C'est un salon que j'aime beaucoup. J'y vais régulièrement. Donc, ce serait grand plaisir.
Justement, des affiches, vous en avez réalisé plusieurs. Pour quel autre univers aussi, salon, événement ?
Alors, en affiche, j'ai beaucoup travaillé avec une chanteuse qui s'appelle Manu, qui était l'ancienne chanteuse du groupe Dolly. Les vieux qui écoutaient du rock dans les années 90 s'en souviendront peut-être. Et principalement dans la musique, beaucoup pour des artistes comme ça, des amis. Je leur fais beaucoup de visuels. À l'époque, il y avait une asso sur Amiens qui s'appelait Amiens Burning. J'ai fait tous leurs visuels aussi, il y a très très longtemps. Et j'aime bien illustrer dans la musique principalement.
Bon, alors vous êtes très impliqué dans la vie culturelle amiénoise, mais pas seulement, puisque vous avez travaillé quand même à l'international. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
J'ai habité à l'étranger, j'ai fait ma formation en Italie à Milan, à la Disney Academia, et j'ai habité à Portland, dans l'Oregon, aux États-Unis, parce que j'ai fait 3 tomes de comics là-bas, plus plein d'autres petites choses à côté. Mais j'ai travaillé dans le comics il y a une quinzaine d'années maintenant.
C'est quelque chose que vous aimeriez refaire ?
Oh oui, alors énorme. Là, c'est compliqué d'avoir un visa, particulièrement en ce moment. Mais j'adorerais retourner. Mais je travaille encore là. Je fais des couvertures pour la série Rick et Morty en comics. J'en ai déjà fait 3. Il y a d'autres projets pour d'autres séries comme ça. Et j'ai des projets. Alors, je ne peux pas trop en parler parce que ce n'est pas encore confirmé. Mais il y a un autre projet de bande dessinée potentiellement aux États-Unis dans les mois à venir, peut-être.
Comment est-ce que vous définiriez votre style ? Alors, on va revenir avec Monstre 13 qui est sorti en 2024, mais comment est-ce que vous définiriez votre style ?
Ah, mon style, c'est un mélange de plein de choses. Comme je vous ai dit, j'ai été formé chez Disney en Italie. J'adore le comic, j'adore le manga, j'adore la BD franco-belge. J'essaye de mélanger un peu tout. Après, il y a des choses qui reviennent. Les gros yeux Disney, ça fait très manga. Il y a plein de choses après. Moi, j'habite à Amiens, donc j'essaye d'intégrer aussi ma ville le plus que je peux. Donc, c'est vraiment un mélange de plein de choses. Je pense que le truc qui est intéressant en art, en général, c'est de mélanger les influences de plein de choses. Je pense que si on reste cantonné à un truc particulier, on n'avance pas. Et donc, je trouve intéressant de mélanger des influences de plein d'univers, en fait. Donc, c'est un peu de tout.
Du coup, niveau influence, si vous deviez citer quelques auteurs, autrices qui vous ont influencé ?
À l'école Disney, il y avait Alessandro Barbucci, qui est un dessinateur italien qui a travaillé chez Disney, qui est maintenant fait beaucoup de BD en franco-belge, que j'adore. J'adore Jamie Alouette, qui fait les visuels de Gorillaz, particulièrement ça. Et grosse influence qui ne se voit pas du tout sur mon travail, mais j'adore le travail graphique actuel des nouvelles séries animées, genre Arcane ou les derniers Spider-Man, des choses comme ça. C'est très graphique, très visuel. Et, alors j'aimerais beaucoup, beaucoup m'en approcher, mais on essaye.
Vous voulez rester vraiment dans le domaine de la bande dessinée ou même partir dans l'animation ?
Bah, j'en ai fait. J'ai fait des stages en animation. J'ai réalisé, bah, justement, pour la chanteuse Manu, j'ai fait des clips tout seul comme un grand. Ça m'a pris 3 mois, ça dure 3 minutes. Donc, c'est très, très long. Mais ouais, non, j'adore ça et j'aimerais beaucoup y retourner, oui.
Alors là, on va entrer dans le vif du sujet avec Monstre 13, qui est votre dernière bande dessinée. Mm-hmm. Ça se passe dans le quartier chinois à Paris.
Oui.
Donc là, on retrouve quand même un univers proche du manga. Mmh. D'où est né ce projet ?
Bah, faut savoir que j'ai habité 10 ans dans le 13e, donc c'est un quartier que j'aime beaucoup, auquel j'y retourne régulièrement. Voilà, j'ai encore des amis là-bas. Et je suis un fan de films d'horreur. Et je trouvais intéressant, voilà, de mélanger les influences du cinéma horrifique asiatique, mais dans un contexte européen. Donc c'est l'idée qui m'est venue comme ça. J'ai commencé à faire des recherches, des brouillons, et c'est mon éditrice chez Albin Michel qui a trouvé l'idée chouette et qui m'a mis en contact avec le scénariste, parce que j'ai écrit le scénario. Elle a dit il est bien, mais on va le faire travailler par quelqu'un qui sait écrire.
C'est sympa.
Non, mais elle a raison, elle a raison. Et du coup, voilà, elle m'a mis en contact avec Fabrice Collin, qui est un romancier. Et du coup, c'est devenu très bien. Et c'est parti comme ça, en fait.
Et justement, elle s'est passée comment, cette collaboration avec Fabrice Collin ?
Très, très, très bien. Alors, c'est quelqu'un qui travaille dans la BD, mais pas tant que ça. Il me l'a écrit un peu sous forme de roman. Donc, d'habitude, quand je travaille avec un scénariste, c'est très découpé par cases, avec beaucoup d'indications, tout ça. Et là, c'était vraiment comme un roman avec très peu de découpage. Et du coup, c'était beaucoup plus intéressant pour moi. J'avais plus de liberté. Et non, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément en tant que personne aussi et en tant qu'auteur. Et ce serait un grand plaisir que je retravaille avec lui.
Combien de temps ça a mis pour créer Monstre 13 ?
Alors, c'est long. Comme je dis, je mets à peu près 3-4 jours pour faire une page de BD. J'ai mis à peu près un an pour la faire, parce qu'il y avait une nouveauté, c'est que je travaillais les décors d'après photo, je redessinais d'après photo. Il y avait un travail de couleurs qui était un peu plus différent, plus influencé du comics américain. Et du coup, j'ai mis un an et ça se lit en 20 minutes. Mais bon.
C'est toujours les problématiques des bandes dessinées aussi. C'est oui. Que ça met du temps à être créé pour une lecture qui est plutôt rapide.
Mais c'est chouette aussi.
Et c'est ce qui fait la particularité de ce format. Je voulais terminer sur revenir un petit peu sur la partie États-Unis de votre parcours. Vous avez notamment travaillé avec Josh Howard.
Oui.
Est-ce que vous pouvez le présenter ? Alors, c'est pas le joueur de basket ?
Ah, pas du tout.
Faut le préciser.
Josh, après je l'ai rencontré qu'une fois quand j'ai fait le Comic-Con de San Diego. Il faisait une série qui s'appelait Dead at 17, qui était assez populaire dans les années fin 90-2000. Et j'ai fait ce qu'on appelle des pin-ups, c'est-à-dire des illustrations à la fin de ses comics. Et bah, depuis, il fait plus grand-chose. Mais j'ai travaillé avec plein d'autres artistes. Du coup, ça a été mon premier travail là-bas aux États-Unis. Ça m'a ouvert des portes justement pour travailler chez d'autres éditeurs et d'autres artistes.
Et un projet de bande dessinée qui arrive bientôt ?
Oh, il y a plein d'idées. Je ne veux pas trop en parler parce que là, je ne veux pas me porter malheur parce que ce n'est pas encore signé. Mais oui, il y a 2-3 choses en cours qui devraient arriver dans les mois qui viennent.
Très différent de ce que vous avez déjà proposé ou ça reste souvent dans le même style ?
Alors, voilà, j'ai vraiment 2 sortes de bandes dessinées. Il y a la BD jeunesse, donc je vais retourner dans la jeunesse parce qu'on me le demande. Et bah voilà, j'adore les récits horrifiques, donc il y a aussi un projet horrifique qui arrive aussi.
Et alors, Amiens, on le sait, c'est quand même une ville où la bande dessinée est très présente, que ce soit avec le rendez-vous de la BD, que ce soit avec aussi des associations.
Oui.
Je pense à 2HB. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous quand vous êtes entré dans l'univers de la bande dessinée au sein d'Amiens ?
Au sein d'Amiens, j'ai commencé par le fanzine. Donc, c'était la 5e édition. On a squatté une table avec nos fanzines qu'on avait imprimées nous-mêmes comme des grands. Après, moi, je travaillais chez Disney Press, donc j'ai très vite commencé à participer au salon en tant qu'illustrateur. Et c'est marrant que vous parliez de 2HB, parce que j'ai travaillé chez 2HB pendant assez longtemps. Et c'est là où j'ai rencontré mon coloriste sur Mia, Ulrich, et c'est des très, très bons souvenirs.
On va vous retrouver au Salon du Livre de Salouel.
Oui.
Pas au 29e rendez-vous de la bande dessinée,
non,
malheureusement.
Non, j'ai pas d'actu.
Pas cette année. Est-ce que vous avez d'autres dédicaces ?
Oui, je serai aussi au Salon du Livre d'Abbeville et de Péronne, le même mois.
Alors, je le rappelle, le Salon du Livre de Salouel, c'est le 1er mars.
Oui.
On peut aussi vous suivre sur les réseaux sociaux.
Tout à fait.
Et est-ce que vous avez un petit mot pour terminer cette interview, donner envie de lire Monstre 13, par exemple, de découvrir aussi votre univers ?
Non, bah, je vous invite à découvrir mes BD. J'en ai fait plusieurs. Hein. Alors, les trois premières sont sorties en anglais, donc c'est compliqué à lire quand on n'est pas anglophone. Mais sinon, il y a une série chez Dargaud qui s'appelle Mia, dont je suis plutôt content. J'ai fait des adaptations de romans chez Belin aussi, j'ai adapté Oliver Twist et Frankenstein, et Monstre 13, voilà, qui est plus horrifique avec un petit côté social, et oui, je vous invite à découvrir mon univers.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Un grand merci à Colline pour cette interview. Pour rappel, tu recevais aujourd'hui Nicolas Hitori D, que nous remercions aussi d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nicolas est un auteur qui sera présent au prochain Salon du Livre de Salouel. Cet événement aura lieu le 1er mars 2025 à la salle des Évents de Salouel. Avant de poursuivre l'émission avec une chronique réalisée par notre bénévole Atalia, je vous propose une courte pause musicale avec le titre, Ciel Bleu Navy de STI. Vous êtes toujours à l'écoute d'Info Club Sandwich, on poursuit l'émission avec la chronique de notre bénévole Atalia.
Aujourd'hui on va parler de la louve, mais ce n'est pas ce que vous pensez. La louve, cet animal à la fois fort, solitaire et solidaire avec ses congénères, connu pour son lien avec la fondation de Rome. La louve n'est pas simplement la femelle du loup, des mots trop souvent réducteurs qui relèguent alors en second plan toutes les femelles du règne animal. Plus qu'un animal, elle fait l'objet d'un titre de rap plutôt prometteur.
Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère.
Écrite par l'artiste Morgane, la chanson sortie en 2024, l'une des dernières en date, est pleine de références actuelles qui ont beaucoup fait polémique. Je dirais que ce son est agréable à écouter, dans le sens où ce n'est pas courant d'entendre des rappeuses, en tout cas dans le rap français. Et voilà, ça apporte quelque chose de nouveau, un vent de fraîcheur qui fait du bien. Et pour ça, on peut dire que la chanson et l'artiste méritent peut-être plus de vues. Chanson qui, je le signale, est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Elle mérite qu'on s'y arrête un instant pour l'écouter, notamment les paroles, pleines de sens et de faits de société qui dénoncent pas mal de choses, souvent tabous. Je dirais même que c'est un cri du cœur venant de l'artiste, teinté d'une amertume poignante et accrocheuse. Les thèmes en question, j'y viens. Vous m'entendez depuis un moment vous dire que les paroles dénoncent, mais quoi me direz-vous ? Eh bien, de sujets variés en réalité, mais essentiellement d'un, celui auquel toutes jeunes filles et femmes ont un jour été confrontées ou qui malheureusement le seront peut-être un jour. Je parle bien évidemment du sexisme, en particulier celui dans l'industrie de la musique ou du cinéma. Je peux citer des exemples comme lorsqu'elle dit des rappeurs sexistes choqués par des rappeuses ou encore déjà trop vieille pour DiCaprio, mais j'ai pas la trentaine, qui revient sur la polémique selon laquelle l'acteur ne sortirait pas avec des femmes de plus de 25 ans alors que l'acteur en a le double. Bref, on dit bravo à Morgan pour en avoir parlé. L'artiste met aussi en lumière les accusations de viol menées à l'encontre de rappeurs et du déni complet qui les accompagne. Elle y va même direct, elle rentre dedans et ne lâche rien en débutant la chanson par une phrase qui claque, dix plaintes au cul mais c'est toute démenteuse. Bref, une pépite que je vous laisse le plaisir d'écouter.
Dix plaintes au cul mais c'est toute démenteuse. Des rappeurs sexistes choqués par des rappeuses. Est-ce que moi ça passera si je dis que je t'apprécie qu'à moitié nu en train de passer la tondeuse? T'as peur de moi? Comme Marine des migrants, joue le mur parce que tu pèses tes aliments. Ta table de nuit c'est un carton déménagement depuis 10 ans. Je m'excuserai pas d'être brillante, je m'excuserai pas d'être brillante. Je préférerais qu'ils fassent semblant de pas nous voir comme la calvitie. Ils font semblant de pas nous croire comme féminicide. Ça devient gravissime. Je mettrai pas les formes, je les porte. Juste en dessous de la taille de mon short. Faudrait que je me taise et je supporte. T'es trop silencieuses en sont mortes. Est-ce que t'as déjà eu peur pour ta vie? Je montrerai l'écran face au fusil. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Le tapis rouge, la reine, l'impératrice, la doyenne. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Je suis la lionne, la reine, la fondatrice de Calissa. Mes rappeurs préférés sont tous accusés de viol. Du coup de qui je m'inspire, y'a de la cruauté dès la cour de l'école. Là où c'est censé nous instruire. Déjà trop vieille pour DiCaprio, mais j'ai pas la trentaine. Mais c'est quand même moi le problème. Soit la taronne, soit pucelle. Petite, j'avais peur de la pénombre qu'on pointait le soir. J'imaginais des monstres qui sortaient du placard. Maintenant j'ai peur du noir quand je rentre un peu tard. Mais c'est pas quand je croise une femme que je change de trottoir. Ah, tu peux plus nous draguer? Dommage. Elles font chier les chiennes à rester sur leur garde. Et pourquoi tu crois qu'on mord et qu'on fait carnage? Et pourtant c'est pas nous les sauvages. Je mettrai pas les formes, je les porte. Juste en dessous de la taille de mon short. Faudrait que je me taise et je supporte. T'es trop silencieuse en sont mortes. Est-ce que t'as déjà eu peur pour ta vie? Je montrerai l'écran face au fusil. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Le tapis rouge, la reine, l'impératrice, la doyenne. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Je suis la lionne, la reine, la fondatrice de Calice, la chaîne. Nous sommes les louves, les mères, les patronnes, les baronnes, la chère. Le tapis rouge, les reines, les impératrices, les doyennes. Nous sommes les louves.
Merci beaucoup Atalia pour cette chronique. On continue la quotidienne avec une série de brèves. Et la première actu que je voulais vous partager, c'est le concert de Scott Yoder à la Péniche Célestine. C'est une soirée qui aura lieu le samedi 22 février 2025 à partir de 20h30, donc sur la Péniche Célestine au Port d'Aval. Et pour cette nouvelle soirée de concert, c'est l'américain Scott Yoder qui est invité. Scott Yoder, c'est un artiste glam à mi-chemin entre T-Rex et David Bowie. Vous pouvez notamment retrouver un super live sur la radio KEXP. C'est une soirée qui est à un prix de 10€ en plein tarif et de 8€ pour les tarifs réduits. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Péniche Célestine si vous souhaitez davantage d'informations. La deuxième info, le deuxième rappel que je souhaitais vous faire, c'est les 15 ans de notre radio. En effet, le 22 février 2025, Radio Campus Amiens soufflera ses 15 ans de diffusion sur la FM. Et pour l'occasion, on va organiser une série d'événements, de soirées, de rencontres. Et la première de ces rencontres aura lieu le 26 février, le mercredi 26 février 2025 à la Lune des Pirates. On vous propose un bruit de lune un peu particulier avec les concerts de deux artistes aminois et aminoises, Benny et Nage, mais aussi des interviews culturelles. Et on clôturera la soirée avec des DJ sets, notamment des DJ, des différents collectifs à qui on laisse notre antenne à peu près tous les jours de la semaine. Donc il y aura notamment le Club C1, DJ Pelouse, El Padrino. Vous pourrez aussi découvrir le nouveau logo de notre radio et notre nouvel univers visuel. Donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre dans le cadre de la première soirée des 15 ans de Radio Campus Amiens. On change de sujet cette fois avec une dernière actualité plutôt prévention, une actualité ado qui vient en écho avec la fête des amoureux de cette fin de semaine qui est la Saint-Valentin. Voilà, c'est une actu qui concerne la contraception et notamment les préservatifs qui deviennent désormais accessibles aux non-voyants. Cette idée est née d'un constat préoccupant. Les jeunes déficients visuels ne se protègent pas, non par refus de le faire, mais par manque d'informations accessibles. Deux enquêtes menées dans le cadre du projet Éduquer pour protéger ont mis en évidence cette problématique, révélant un besoin urgent de ressources adaptées. C'est pourquoi Mes Mains en Or, une maison d'édition spécialisée dans les livres jeunesse adaptés, lance les premières notices adaptées des préservatifs pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ces notices, conçues pour être claires et adaptées, sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site de l'association www.mesmainsenor.com/nos-ressources. Voilà, c'est tout pour moi côté actu. C'est déjà la fin d'InfoClub Sandwich. On se quitte en musique avec le titre de Wizard de Roger Ferret. Juste après l'émission, retrouvez le 23e épisode de Prépanorama, une émission d'actualité étudiante réalisée par notre journaliste Jasmine Feta. Merci de nous avoir écoutés. Bon week-end à toutes et tous. Au revoir. Well, the streets were non-existent, and the halls were filled with mud. I gotta go back home, we might get caught by the flood. Well, the feet just like the people selling blood. On my way home, I might get drowned in the mud. Hear them, listen, well, move, then walk, touch them, feel them, choose your time.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le 23e épisode de Prépanorama, une émission qui a pour objectif de vous présenter les différentes classes préparatoires à Amiens et ses alentours, avec la participation des étudiants et des professeurs de différentes formations. Pour la première partie de cet épisode, nous sommes avec Monsieur Capdevielle, professeur de mathématiques et professeur principal, ainsi que Monsieur Voisin, enseignant de chimie. Ils nous présenteront la filière physique, chimie et sciences de l'ingénieur au lycée Laramée à Saint-Quentin. Bonjour.
Bonjour.
Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous présenter la classe préparatoire, s'il vous plaît ?
Alors, donc on est tous les deux enseignants en classe préparatoire physique, chimie, sciences de l'ingénieur ici même au lycée Pierre de Laramée à Saint-Quentin. Le but de la classe préparatoire, c'est de préparer les étudiants au concours d'entrée en grande école d'ingénieur.
Est-ce que vous pourriez nous présenter le programme justement de la première année ?
Alors, pour le programme, malgré qu'il n'y ait pas le M dans le sigle de la classe prépa, en fait, toutes les classes préparatoires scientifiques, la matière majeure, ça restera les mathématiques. Donc, il faut compter une dizaine d'heures c'est par bizarre, semaine sur la ça. Première année. Ensuite va venir la physique, à peu près 8 heures, c'est ça. La chimie, on va être à peu près à 4 heures semaine. Donc, la différence avec éventuellement la terminale, c'est que la physique et la chimie sont découplées. Elles deviennent deux matières à part entière. Il y a 2 heures de français semaine, 2 heures d'anglais, 2 heures de sport chez nous aussi par semaine. Mmh. Et l'informatique à raison de 2 heures par semaine, ça revient à ça, et possibilité d'une LV2 en espagnol, mais facultative. Voilà.
Et vis-à-vis de la préparation au concours, est-ce que dans l'emploi du temps, il y a des examens ? Est-ce qu'il y a des examens blancs, des oraux d'école, je crois ?
Alors, les étudiants ont un DS quasiment toutes les semaines, le mercredi après-midi en l'occurrence. Donc un devoir surveillé de 3 ou 4 heures, la plupart du temps 4 heures. Et à côté de ça, ils ont aussi 2 ou 3 séances d'oraux blancs, donc les fameuses colles, par semaine, qui vont alterner entre toutes les matières.
Quel est le profil que vous recherchez ? Le profil en termes, est-ce que vous recherchez des élèves qui ont fait le bac général ou le bac technologique ? Quel spé, par exemple, ils ont pris en terminale ou en première ?
Alors les profils recherchés, ça va être des profils d'élèves déjà intéressés par les sciences. Ça reste quand même des sciences fondamentales qu'on leur enseigne pendant 2 ans. Sur les spécialités, j'aurais tendance à penser qu'il faut la spécialité maths. D'accord. Et pour la deuxième spécialité à dominante scientifique, là, ici, EMIT, on recrute des physiques, chimie, des sciences de l'ingénieur, des fois des bio. Mais on va dire qu'il faut la spécialité maths en priorité.
Voilà, si vous voulez, le profil type, ça va être spécialité maths et physique. Ça, c'est vraiment le profil le plus typique, finalement. Maintenant, les programmes en classe préparatoire sont assez progressifs. Dans la première partie de la première année, on reprend vraiment toutes les bases. Ça va relativement vite, mais on reprend quand même les bases. Ce qui rend les programmes enseignés en classe prépa accessibles. Alors, accessibles ne voulant pas dire facile. Le rythme est quand même soutenu. Mais voilà, on a eu des bons résultats avec des élèves qui avaient un niveau très moyen en mathématiques à l'entrée, par exemple.
Le secret en prépa, ça va être le travail régulier, en fait. Je tends à dire que c'est une filière qui, pour moi, n'est pas... elle est exigeante, mais elle n'est pas sélective. Il y a une place à la fin pour n'importe quel étudiant qui joue le jeu. Il décrochera un concours en entrée en école d'ingénieur.
Et vis-à-vis de l'enseignement, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des travaux dirigés ? Est-ce qu'il y a des TP ? Est-ce que c'est des cours magistraux ?
Alors la filière PC en prépa scientifique, c'est celle qui possède le plus d'expérimental. D'accord ? Donc on va se retrouver avec des cours magistraux, comme au lycée, il va y avoir des séances de travaux dirigés. Et il y aura 4 heures par semaine de travaux pratiques, soit en physique, soit en chimie.
Et... vis-à-vis de la préparation au concours, qu'est-ce qui va par exemple différencier dans un premier temps la première année de la deuxième année vis-à-vis des cours ? Est-ce qu'il y a une spécialisation par exemple en deuxième année ou ça reste vraiment sur le même volume horaire ? Comment...
Non, les concours se basent sur les programmes des 2 années.
D'accord. D'accord.
Donc la préparation est complètement similaire avec un DS par semaine de 4 heures, 2 séances de ce qu'on appelle les codes d'interrogation orale par petits groupes de 2 ou de 3. Alors, envie de préparer les oraux des concours. Et ça se passe de la même façon en première et en deuxième année. Et sur chaque année, ils ont un concours blanc, fin de période, à la fois en première année et milieu de période en deuxième année, parce que les concours vont démarrer déjà là dans une semaine. Donc la deuxième année est assez courte en fait. Mmh.
Après, ce qui va changer, c'est le rythme. C'est-à-dire qu'en début de première année, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reprend les bases. Donc on avance relativement doucement. Le but du jeu, c'est de que tous les étudiants aient des bases suffisamment solides pour pouvoir accélérer derrière. Donc en deuxième année, on va plus vite qu'en première année.
Est-ce que vous savez si le lycée Laramée a un internat ou est-ce qu'il est en lien par exemple avec d'autres écoles qui ont un internat ?
Alors nous, on a un internat qui est systématiquement réservé à tout étudiant qui est admis chez nous. Ils ont leur propre étage, voilà. Mais sinon il y a un internat et la place est automatiquement réservée dès lors que vous êtes admis chez nous en classe préparatoire. Le budget, vous comptez à peu près 1500-1100 euros pour toute l'année, les trois repas journaliers compris.
D'accord. Est-ce que pour obtenir plus d'informations complémentaires, vous savez si le lycée organise par exemple des journées portes ouvertes ou est-ce qu'il participe à des forums ?
Alors, on a participé et on participera encore à divers forums d'orientation. Donc, vous pouvez nous rencontrer à ces moments-là. On organise aussi des journées portes ouvertes qui généralement ont lieu en février. Il est aussi possible pour les élèves de première et terminale 2 venir en immersion, une demi-journée ou une journée complète. Dans ce cas-là, vous viendrez parmi les étudiants de première année. Si vous êtes motivé, vous pourrez même passer une colle de maths pour tester un petit peu et voir ce que ça donne.
Justement, j'aimerais revenir aussi sur un des éléments qui est quand même assez important, c'est les perspectives et les débouchés. Quels sont les débouchés principaux justement de la classe préparatoire ?
Alors ça va être tous les métiers liés à l'ingénierie, ce qui est extrêmement large, mais ça va toucher à différents domaines. Vous allez avoir tout ce qui est aéronautique, aérospatial, tout ce qui est chimie, les matériaux, pardon.
La pharmacologie, voilà. L'énergie, le renouvelable, l'informatique.
Oui.
C'est extrêmement ouvert. En fait, j'aime dire qu'il y a autant de métiers qu'il y a d'ingénieurs en fait. Mm. Ou de spécialité en ingénierie.
Le but du jeu, c'est de les amener vers une école qui leur plaît à la fin, quel que soit leur profil à l'entrée. D'accord ? Donc on va les accompagner autant que possible. Et l'orientation fait aussi partie du cursus en prépa. On les emmène rencontrer des anciens étudiants, par exemple, qui sont maintenant en poste ou en école. On les emmène visiter des grandes écoles d'ingénieurs aussi.
Justement, vous avez anticipé ma deuxième question. Vis-à-vis des anciens étudiants, est-ce que vous avez le retour d'anciens étudiants qui viennent, par exemple, à la Ramée pour présenter leur parcours ?
Oui, alors chaque année, ils reviennent au moins deux fois par an, pour ceux qui sont disponibles et motivés au moment où ça se passe. Donc il y a le forum des anciens. Donc en gros, ils viennent présenter en amphithéâtre, soit sous forme de visio, soit sous forme de présentiel, d'accord, leur parcours, où ils en sont, le métier, s'ils sont déjà dans le monde du travail. En règle générale, ils viennent aussi lors de notre journée porte ouverte qui a lieu en même temps que celle du lycée.
Ils alimentent aussi un site internet, donc prépa-laramée.fr, sur lequel il y a beaucoup de témoignages d'anciens étudiants qui sont donc maintenant en école, et c'est une mine d'informations en fait, hein, pour les lycéens. Donc il ne faut pas hésiter à y passer un petit peu de temps pour essayer de se fixer un objectif.
Pour finir, est-ce que vous auriez des conseils, par exemple, à donner aux étudiants qui souhaiteraient venir dans la classe prépa ou même aux étudiants en général ?
Alors, le conseil numéro un, c'est d'être curieux le plus possible, d'approfondir continuellement ce que vous travaillez. En fait, c'est ce qu'on va chercher en prépa. On va continuellement chercher à vous pousser dans vos retranchements. Et une fois qu'on a atteint les retranchements, on va aller encore un petit peu plus loin. On va systématiquement vous pousser, mais c'est dans votre intérêt. Vous venez pour ça, justement. Donc, il faut approfondir. Quand vous faites des erreurs, revenez dessus. Essayez de comprendre pourquoi vous avez fait une erreur, comment la corriger et comment ne plus la faire, par exemple. Faut aussi essayer de bien s'organiser. Une des difficultés principales en prépa, c'est la quantité de travail. Il y a quand même beaucoup de travail là-dessus, on va pas se mentir. Donc, il faut être capable de répartir un petit peu la charge. Et surtout de ne pas faire le travail la veille pour le lendemain, parce que ça marche pas du tout. Si vous suivez ces deux principes-là, en général, les parcours en prépa se passent quand même bien.
Oui, c'est sécurisé. Je veux dire, déjà, les deux années de préparation comptent quand même en tant que bac plus 2, même si on va pas les travailler en sortie d'une prépa, mais on valide une licence 1, une licence 2 en maths, en physique ou en chimie. Donc tout ça, c'est sécurisé au niveau du parcours. Et... faut aussi casser éventuellement un cliché persistant. C'est pas réservé à ceux qui ont 18 ou 19 de moyenne, d'accord. Les élèves qu'on reçoit, les étudiants actuels, il y a tout profil. Hein. Il y a du bac sans mention jusqu'au bac avec félicitations. Et tous, à partir du moment où ils vont jouer le jeu, vont décrocher une école à la sortie.
Et comme tu dis, c'est un parcours assez sécurisé, d'autant plus qu'on est quand même habilité à fournir les crédits ECTS. Donc même si le parcours en classe prépa ne se passait pas bien, ces années sont reconnues par le monde universitaire, donc ça peut être convertible dans d'autres formations.
Et à l'échelle européenne.
Et à l'échelle européenne, oui.
Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Nous étions avec M. Capdevielle, professeur de mathématiques et professeur principal, ainsi que M. Voisin, enseignant de chimie. Ils nous ont présenté la filière physique-chimie et sciences de l'ingénieur au lycée Laramé à Saint-Quentin. C'était le 23e épisode de Prépanorama, une production réalisée en partenariat avec la mission d'enseignement supérieur, recherche et innovation d'Amiens Métropole. À bientôt.